Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Merci à Cafil Hype pour ton resub, merci Foire à l'Oignon pour ton resub, déçu de te louper à la fête de l'humain, je serai sûrement encore au taf le vendredi. Ah! Même le soir? Quel dommage! Merci Jonfi, merci Louis, merci Laure, merci pour vos resubs. Bonjour tout le monde! Est-ce que vous allez bien? C'est quoi cet arbre à chat de ouf? L'arbre à chat de compétition là? Ouais. Bon, le chat est jamais monté dedans. Le chat est jamais monté dedans. Mais elle se fait les griffes dessus, donc c'est bon. Et puis elle s'allonge à la base, là. Après tout, elle fait ce qu'elle veut, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Vaslander, merci pour ton resub. Merci Molly Winter pour ton resub. Merci Jésus pour ton resub. Jésus, incroyable. 2000 ans de following. Bonjour. Ah, elle sort de la cuisine, ça y est. Alors, le potichat, oui, le potichat, elle sort de la cuisine. Elle vit sa meilleure vie quand je suis pas à la maison ou quand je suis allongé dans mon lit, tranquille à regarder une série ou que je dors. Là, elle se balade partout dans l'appart, elle va bien, elle vit sa meilleure vie. Par contre, dès que j'ai le malheur d'être physiquement présent et éveillé dans l'appartement, elle file dans la cuisine et je la revois pas. Voilà. Je suis au Japon, mais je vais voir si je peux faire un détour pour la fête de l'humain, venir te voir. Mais viens donc, viens donc. Parle-nous de ce vélo. Ah oui, non, oui, bah oui, le vélo. Le vélo, c'est un Lemo que m'a prêté Altis Play, le YouTubiste, que je vous invite à suivre, qui parle de vélo. Et il m'a prêté gentiment ce vélo pour que je me fasse la main dessus. Et c'est un super vélo, voilà. Lemo, c'est la marque, LE2MO. Et ils font des vélos électriques. Alors, il a une grande particularité, ce vélo. C'est que donc, la batterie que vous voyez là, elle est amovible. Vous pouvez retirer la batterie et vous avez juste un pignon à retirer, enfin, à tirer vers l'arrière, au niveau du dérailleur à l'arrière. Et ça devient un vélo tout à fait mécanique, normal, classique, à peine plus lourd qu'un vélo normal. Donc, c'est vraiment un vélo. Voilà. Tu dégueulasses pas ton parquet. Si, si, je dégueulasse mon parquet, mais là, je l'ai remonté parce qu'il fallait que je fixe le. Enfin, j'avais du bricolage à faire. Il fallait que je regonfle les pneus et tout. Donc, exceptionnellement, je l'ai pas laissé en bas. Je l'ai remonté dans l'appart. Mais d'habitude, il est pas là. Hein. D'habitude, il est en bas. Et il est à courroie. Oui, c'est le modèle à courroie. Il existe en version chaîne et il existe en version courroie. Et ben, du coup, celui que m'a prêté Altis, il est en version courroie. Ce qui est très pratique parce que la courroie, il n'y a absolument aucun entretien à faire. Aucun. Rien. Walou. C'est durable, c'est souple, ça, c'est increvable. Il y a pas de graisse, il y a rien. Pour moi, c'est parfait. Ça vole bas les sujets, j'ai pas les mots. Je l'ai, elle est bonne. Est-ce que tu as un local pour ranger ton vélo? Alors oui, j'ai un local à vélo dans mon immeuble, mais comme beaucoup de locaux à vélo à Paris, il est blindé. Il est rempli de vélos. Il y a trop de vélos. Et donc du coup, moi, je le laisse dormir à l'extérieur, à l'intérieur de la résidence. Je l'attache à une grille et puis voilà, terminé. D'ailleurs, il a une particularité, ce vélo, c'est qu'il a une alarme. Regardez, là, je l'ai loqué. Si je le bouge, il va se mettre à gueuler. Il a une alarme. Et la première fois que je l'ai garé à côté de la grille en bas de chez moi, machin. Je l'ai laissé là comme ça. Et puis le soir, j'étais en train de jouer, je sais plus ce que je faisais et tout machin. Puis j'entendais une alarme dans la rue. Je me disais, putain, ils font chier les gens à laisser leurs alarmes comme ça. Puis ça sonnait souvent. Je me disais, attends, c'est relou quand même. Et à un moment, j'ai percuté que c'était mon vélo en fait. Ah oui, merde, c'est vrai. Et c'est juste que quand les gens ils ouvraient la porte, enfin ils ouvraient la grille pour rentrer chez eux normalement ou rentrer ou sortir de l'immeuble, bah à chaque fois qu'ils claquaient la grille, ça faisait un peu vibrer la grille et du coup ça faisait sonner le vélo. Donc en fait j'étais le casse-couille qui pétait les burnes à toute la rue depuis le début. C'était moi. Oups. Voilà. J'ai désactivé l'alarme. Quand même, font chier les gens. Hein. Ils pourraient faire attention quand même les alarmes dans les rues. C'est relou. Merci Zedoc pour ton Prime. C'est pas mal ça, tu l'as ajouté, c'était déjà sur le. Non, c'est déjà sur le vélo. C'est de base sur le vélo. Il y a une alarme. Tu peux locker ton vélo. Ça le lock physiquement, donc la roue peut plus tourner. La batterie peut pas être enlevée, elle est loquée physiquement. Et en plus, l'alarme, le vélo sonne si quelqu'un y touche. C'est un vélo. Enfin, c'est une alarme, quoi. C'est assez pratique. C'est bizarre, je me rends compte, mais les GAV me manquent. Les GAV, tu veux dire les gardes à vue? Les gardes à vue te manquent. Tu es masochiste. Tu sais que sur Internet, tu peux trouver des donjons près de chez toi qui s'occuperont de toi. Hein. Si tu parles des QAG, t'inquiète, ça va revenir. La rêve du vélo. La rêve du vélo, c'est le Lemo One. Lemo, c'est la marque. LE2MO. Et le modèle, c'est le One. Voilà, Lemo One. Mais je crois qu'ils n'ont qu'un seul modèle. Donc voilà, je vais pas le garder éternellement. Hein. Je vais le rendre à Altice au bout d'un moment. Mais là, je l'ai pour quelques semaines. Combien il coûte, je sais pas. On me l'a prêté. Mais je crois qu'il coûte cher. Hein. Ça, c'est un vélo plutôt haut de gamme. C'est l'électrique à 2000 balles, hein, je pense. On est sur du vélo haut de gamme. Hein. Les QAG, c'est pas loin d'être un donjon non plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu as raison. On est un peu tous maso. Salut Chipoula. Merci pour ton resub. Salut Bandit, merci pour ton resub. Bientôt le bébé. Oh, quand même. Ouais, il est à 2000, je suis en train de checker leur site. Ouais, non, il est à 2000 balles. Hein. Le Lemo, il est à 2000 balles. C'est un vélo, c'est un beau vélo. Hein. C'est un beau vélo électrique, cher, très léger. Très agréable et tout. Du coup, je découvre à la fois ce vélo, je découvre ce type de vélo, qui est un vélo du coup très léger et un peu typé piste. Enfin, non, ça veut rien dire. J'ai pas les mots, je connais pas le jargon, excusez-moi. Hein, mais par opposition au vélo hollandais, où t'es tout droit, comme ça, t'as le dos droit et tu pédales machin. Là, c'est un vélo où t'es un peu courbé. Et voilà. Ton cadenas est pourri. Alors, mon cadenas n'est pas pourri, hein, c'est un kryptonite. C'est les cadenas haut de gamme que tout le monde a. Voilà. C'est 1000, 1200 sans la batterie et 2000 avec la batterie. Ah, c'est 2000 euros avec la batterie. Ah ouais. Alors par contre, je crois que ils ont. Alors, je suis pas du tout. Je sais pas pourquoi je vous parle de ce vélo. Mais non, parce qu'il est là en même temps. C'est pour ça qu'on en parle. Je suis pas sponsor. Hein. Je suis pas là pour vous le vendre, vous inciter à l'acheter. Voilà. Mais je crois qu'ils ont un système de location de batterie. Vous pouvez ne pas acheter la batterie, mais la louer à l'EMO. Et du coup, l'échanger quand elle commence à perdre un peu de sa patate, etc. Voilà, sachez-le. Loué égale esclave. Tu dois être long en soirée, toi. Alors que la marque de vélo électrique en ce moment, c'est plutôt Vanmoof. Oui, peut-être. Mais en tout cas, moi, je teste, je découvre. Je découvre du coup le fait de faire du vélo à Paris pour mes déplacements. Ce qui, on va pas se mentir, est un bonheur absolu en ce moment. Avec la météo qu'il fait là, c'est un bonheur absolu. Je pense qu'au mois de décembre, je chanterai une autre chanson. Mais là, pour l'instant, franchement, le vélo à Paris, c'est un bonheur absolu. C'est très beau, c'est très sympa, c'est très rapide. Voilà. Tu préfères pas les trottinettes électriques, Jean? Bah si, mais comme il n'y en a plus à Paris maintenant, je me mets au vélo, quoi. On se sent pas en danger. Honnêtement, les infrastructures cyclables maintenant à Paris sont tellement bien faites et tellement partout que moi, je me sens pas en danger. Vraiment, je me sens pas en danger. C'est très agréable de faire du vélo à Paris. C'est pas aussi dangereux que ce qu'on pense. Tu roules rarement à plus de 20 km/h. Franchement, non, vraiment les pistes cyclables, ça rend la pratique quand même du vélo extrêmement agréable. Cette pub pour les mots incroyables. Non, mais c'est pour ça, je suis pas sponsor. Hein, voilà. Donc, en tout cas, c'est le vélo que j'ai en ce moment que je teste. Je découvre à la fois le vélo à Paris, ce qui est un apprentissage, etc. Et c'est, comme je vous dis, assez agréable et assez surprenant à quel point j'y prends goût. Je me surprends même à faire des distances que j'imaginais pas. Parce que, enfin, en plus, moi, je suis pas sportif, je fume des clopes. Enfin, je suis pas du tout. Mais là, je traverse Paris. Si j'ai un rendez-vous à l'autre bout de Paris, ben, j'y vais en vélo, je reviens en vélo. Pas de difficulté. J'ai pas l'impression de franchir une montagne. J'ai pas l'impression de faire un effort physique incommensurable. Donc, c'est assez surprenant. Et voilà. L'assistance électrique, ça change tout. En tout cas, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas cycliste et pas sportif, l'assistance électrique, c'est clairement ce qui me permet de faire du vélo. Il n'y aurait pas d'assistance électrique. Honnêtement, je pense que je ne le ferais pas. Faut que je sois un peu honnête avec moi-même. Je peux avoir les meilleures bonnes résolutions du monde. Faut pas se mentir. Je me connais. Je le ferais pas. Il arrive au rendez-vous avec les bonbons qui nagent. Non! Mais non! Sinon, c'est bien de vivre à Paris. Bah, ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu veux une réponse de merde? Si tu veux que je te dise, j'en sais rien. Moi, ça dépend de tes goûts, ça dépend de toi. Je te connais pas, je sais pas. Je sais pas, ça dépend. T'as une bagnole ou pas du tout? Ah non, j'ai pas du tout de bagnole. Ah non, non, non. Ah non, mais vraiment, la voiture individuelle dans Paris, jamais. C'est vraiment. Merci le popote. Merci DR Caméra pour vos resubs, merci. C'est quand la politique? Pas tout de suite. Pas aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, démerde-toi. Et peut-être des trucs à vous dire à 17h. Le gros problème, c'est de monter le vélo électrique au cinquième sans ascenseur. Ah ben, ça, oui, si t'as pas de moyen de stockage de ton vélo au niveau de la chaussée, oui, ça va être relou. Ça, je te le garantis. Du coup, l'annonce, c'est le vélo. Ça se trouve. Voilà, je voulais vous annoncer que je fais du vélo maintenant. Êtes content du voyage, hein? Merci pour vos resubs d'ailleurs. Ça s'est beaucoup amélioré le vélo à Paris ces dernières années. Ah oui, clairement, clairement, non, vraiment. Hein. Le vélo à Paris, ça n'a rien à voir avec il y a quelques années. C'est beaucoup plus sécurisant. Il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de gens qui font du vélo. Voilà. Est-ce que le système d'alarme te permet de le laisser dans la rue la nuit? Oui. Après, ça, c'est un choix qu'il faut faire. Est-ce que vous voulez laisser votre vélo dormir dehors avec le risque qu'il se fasse voler? Bon, bah, ce vélo-là, il a le mérite d'avoir une alarme. Ça aide. Voilà. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. J'ai toujours peur de me faire dégommer par une voiture en vélo. C'est normal d'avoir peur de ça, oui, c'est normal. J'adore rentrer des bars en vélo, passer par les grands axes parisiens, c'est trop beau. Ah oui, non mais c'est splendide, hein. Moi là, quand je rentre en début de soirée, que t'as un coucher de soleil, que tu traverses la Seine, tu tournes la tête sur le côté, et là t'as Notre-Dame en chantier, l'Hôtel de Ville de Paris, le Louvre, la Seine, tu prends une gifle de bonté en disant putain, quand même c'est beau, hein. Je vois sur le site, il a alarme plus verrouillage des roues plus GPS. Ouais, il y a un GPS aussi, ouais. Tu tournes la tête sur le côté et tu te manges un trottoir. Tu rigoles, mais ça a été mon premier accident de scooter il y a très longtemps à Paris. J'avais emprunté le scooter d'un pote et tout, je sais pas, je devais avoir 17 ans, 18 ans. J'avais emprunté son scooter pour faire un aller-retour, acheter des clopes. Et j'ai traversé un pont de Paris un soir comme ça, coucher de soleil. Je tourne la tête sur le côté. La vue est absolument splendide. Et du coup, je sais pas, je dois bugger l'espace de 2 secondes. Bon, bah c'est con, j'avais pas vu qu'en face ça freinait. Et du coup, je me suis remangé une bagnole. Voilà. Pas vite, hein, mais bon. Premier accident, c'est à cause de la beauté de Paris. C'est quand même con, hein. Voilà. T'en es mort? Ouais, j'en suis mort, mais ça va mieux. Salut les gonzesses. Non, les gonzes. Salut Mr. Fox. Meilleur souvenir de Paris, rentrer de chez moi bourré et traverser la Seine bourré à 2h du mat. Mais attends, mais c'est les meilleurs souvenirs, ça. T'es arraché, tu marches dans les rues de Paris, tu lèves le nez, tu fais putain, c'est beau quand même. Hein. Les toits de Paris, là. Ouais, c'est sympa. Je suis rentré de soirée bourré en vélo. Ah, ça vaut mieux éviter. Il devait pas y avoir une annonce fracassante aujourd'hui. Ah si, c'est possible. Mais pas tout de suite. À 17h. À 17h, je vous annonce un truc. Si vous êtes sage, je peux aussi ne pas l'annoncer, hein. J'ai pas dit que c'était malin. Ah bah non, t'as bien fait. On peut 18h plutôt, je suis dans les transports sans réseau. Alors on peut décaler à 18h si vous voulez, hein. Ouais. En tout cas, très heureux de voir que tu kiffes ton nouveau mode de transport. Bah ouais, merci Altice, hein, merci, c'est grâce à toi, hein. C'est grâce à toi. Et non, non, je te dis, je découvre la pratique du vélo à Paris quasi quotidien. Je sors pas de chez moi tous les jours non plus. Mais maintenant, à chaque fois que j'ai un déplacement, c'est toujours à vélo maintenant. Et faudrait que je fasse des calculs sur combien de pognon j'économise en n'ayant pas besoin de louer une trottinette ou de prendre un Uber, etc. Ah non, je suis conquis. Merci Geeks d'Alire, merci Vélania pour vos resubs, merci. Alors on a fait l'arbre à chat, le vélo, la lampe, c'est quelle marque? Je sais pas. Je sais pas, c'est un vieux cadeau la lampe qu'on m'avait offert. Tu prenais jamais le métro? Si, 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 si. Enfin, le métro, je l'ai beaucoup, beaucoup pris pendant 15 ans quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je le prends un peu moins. Mais avant, quand j'allais au boulot, j'y allais toujours en métro. Donc oui. Oui, non, j'ai pris le métro quotidiennement. Quand j'étais pauvre. Ah, il y avait aussi une question de pouvoir d'achat, oui. Parle-nous du vinyle Toxic Avenger derrière toi, s'il te plaît. C'est un vinyle dédicacé de l'album Yes Future de Toxic Avenger. Voilà. Écoutez-le, mangez-en, c'est bon pour la santé. Tu prends beaucoup de Uber ou pas? Bah maintenant beaucoup moins du coup. Uber c'est quand même vachement pratique pour rentrer de soirée, on va pas se mentir, hein. Rentrer de soirée en sécurité quand il n'y a plus de métro. Mais maintenant j'en prends beaucoup moins. Vive le City Scoot. Alors moi j'ai jamais fait City Scoot. Pour ceux qui connaissent pas City Scoot, c'est un service de location de scooter en électrique, en free floating. Et moi j'en ai jamais fait du City Scoot. Mon père se balade beaucoup en City Scoot. Lui, il s'est mis au City Scoot, ça lui convient très bien comme mode de transport, voilà. Moi, jamais fait. Désolé, c'était les vacances, j'ai rien suivi tes dernières annonces, il y a quoi de beau à la rentrée de ton côté? Ah, mais j'ai pas encore tout annoncé, hein. Il y a encore des trucs qui vont être annoncés. Peut-être. Merci Oxochrone, merci Espy. Salut Jean, comment va Lopotichat? Lopotichat va bien. Lopotichat va bien. Elle vous embrasse. Non, Lopotichat va bien. Pas tout aujourd'hui? Ah, je vais pas tout vous annoncer d'un coup. Ah non, vous allez faire des arrêts cardiaques, je vais être responsable et tout, je vais culpabiliser. Non, 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 on va faire ça au fil de l'eau. Ah ouais, non, 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 non. Aujourd'hui, je vous annonce un truc. Demain. Peut-être j'ai un truc à vous annoncer. Après-demain, peut-être j'ai des trucs à vous annoncer. Je sais pas. Les chats en appartement pour ou contre en définitive. Là, il y a des chats qui, malheureusement pour eux, ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont contagieux, et qu'il ne faut pas qu'ils soient en contact d'autres chats. Donc cela, la réponse est vite apportée. Et puis il y a des chats qui vivent très très bien en appartement. Après un jour un destin, voici un jour une annonce. Exactement. Et là, tu te contentes de nous dire que tu as des trucs à nous annoncer. T'as vu, c'est chiant, hein? Oh, je vous fais languir. J'ai cru qu'il avait bugué. Non, 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 je regardais mon portable. L'annonce, c'est qu'il y a une semaine d'annonce. Ah oui, c'est ça, l'annonce, c'est que j'ai des trucs à vous annoncer demain. Il va annoncer son don au Resto du Cœur. Ah oui, j'ai vu Bernard Arnault qui lâche 10 millions au Resto du Cœur. Grand prince. 10 millions au Resto du Cœur. Pour aider les Restos du Cœur. Je vous rappelle que les Restos du Cœur sont dans une. Enfin, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'information, les Restos du Cœur, depuis quelques jours maintenant, tirent la sonnette d'alarme puisqu'ils sont dans d'immenses difficultés financières et qu'ils risquent d'interrompre leurs activités, faute de moyens, faute d'argent. Donc, c'est une manière d'appeler aux dons, de tirer la sonnette d'alarme aussi sur l'augmentation de la pauvreté. Et dans la foulée de ces annonces, Bernard Arnault a annoncé que la famille Arnault allait faire un don de 10 millions d'euros. Bernard Arnault qui avait donné 200 millions d'euros à Notre-Dame de Paris, voilà, pour la réparation de Notre-Dame de Paris. Pour aider à la défiscalisation. Alors non, ça je vous l'ai déjà dit, mais je peux vous réexpliquer. Quelle est la différence entre une défiscalisation et une déduction fiscale? Ce n'est pas la même chose. Défiscaliser, c'est retirer du montant de l'assiette de son impôt des trucs, pour des raisons légales. Je défiscalise en, je sais pas moi, tu fais un investissement locatif, je crois qu'il y a toujours des dispositifs fiscaux où tu défiscalises, c'est une manière pour le gouvernement et pour l'État d'encourager la construction de logements neufs, tu défiscalises. Donc tu retires de ton patrimoine, quand les services fiscaux te demandent combien avez-vous, tu leur donnes pas la somme exacte de combien t'as, puisque tu déduis, non tu déduis pas, pardon, tu défiscalises une partie de ton patrimoine conformément à la loi, etc. Et donc tu es imposé sur une assiette plus petite que la réalité de ce que tu as. Ça, c'est une défiscalisation. Ensuite, il y a une déduction fiscale. La déduction fiscale, c'est la possibilité, une fois que l'administration fiscale a calculé combien tu devais payer d'impôts, de déduire du montant d'impôts que tu dois payer une partie, pour la même raison, pour des raisons légales, en disant, bah, au lieu de payer 100, je vais payer moins, puisque je peux déduire de mes impôts. Et alors là, il y a plein de trucs que tu peux déduire. Hein. Il y a plein de dispositifs fiscaux qui permettent d'encourager le service à la personne, le machin, il y a plein de trucs, etc. Et en l'occurrence, les dons aux associations, dans un certain cadre, sont déductibles fiscalement à hauteur de 66%. Alors ça dépend des montants, ça dépend de machin, ça peut monter jusqu'à 75, la loi Coluche et tout. Mais voilà. En finalité, tu payes moins d'impôts. Après, il ne va pas profiter de ça, mais il défiscalise déjà bien à côté. C'est quoi la loi Coluche? Alors, la loi Coluche, c'est justement une loi qui a été inspirée notamment par Coluche lorsqu'il a créé les Restos du Cœur, permettant la défiscalisation des dons aux associations, en disant en fait, les gens qui ont la générosité de donner de l'argent à des organisations d'intérêt général, c'est dégueulasse qu'ils aient en plus à payer des impôts à l'État qui va agir pour l'intérêt général. Sous-entendu, les associations font déjà une partie du boulot que l'État ne fait pas. On va pas demander aux gens de payer deux fois. Donc, tu peux déduire de tes impôts une partie de l'argent que tu as donné à des assos, en disant bah, j'ai déjà donné à l'intérêt général, donc l'État, toi qui t'occupes de l'intérêt général, bah, j'ai déjà donné, donc je te donne moins. Ça, c'est le principe de la loi Coluche. Je vous la fais très courte. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que les déductions fiscales, ce ne sont pas des réductions d'impôts. Enfin, si, techniquement, si, parce que tu réduis. Enfin, il n'y a pas d'enrichissement. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'enrichissement quand tu fais un don et que tu le déduis de tes impôts. Tu gagnes pas d'argent. C'est pas un crédit d'impôt. C'est pas du tout un crédit d'impôt. Non, effectivement, c'est pas un crédit d'impôt. C'est juste que tu cibles ouvert une partie de tes impôts. C'est juste que. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Tu orientes techniquement ton impôt. Une partie de tes impôts, alors encore une fois, c'est plafonné. Hein. Tu peux pas choisir de dire non, non, mais moi j'ai envie que mes impôts ils servent qu'au climat, donc je vais donner tout au climat. Non, ça, t'as pas le droit. C'est limité. Dans la part totale de ce que tu verses, dans le montant global, etc. J'ai plus les chiffres en tête. Merci Pazozo pour ton resub. De mémoire, c'est 10%. Alors, de mémoire, c'est plafonné à 20% de ton revenu imposable. Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu. Après, sur les impositions sur le patrimoine, je ne sais pas. Je suis pas fiscaliste. Vous allez demander aux fiscalistes, ils vous diront mieux que moi. J'ai plus les règles en tête. C'est pour ça qu'il existe des micro-parties pour dépasser le seuil des 7500 max de déduction. Non. Non. Tu confonds les dons aux partis politiques qui sont plafonnés à 7500 euros par personne, par an. Et ça n'a rien à voir avec les déductions. Et les micro-parties, oui, ça sert effectivement à accumuler des dons. Vu que tu es limité à 7500 euros par an et par personne. Donc voilà. Et effectivement, les mécanismes de déduction fiscale sont un mécanisme très important pour le financement de la vie associative des ONG qui ont besoin de ces dispositifs fiscaux parce que ça permet aux gens de donner de l'argent. Malheureusement, si tu supprimes ce truc-là, les gens arrêtent de donner aux associations en disant bah, je suis désolé, je paye tellement d'impôts déjà à la fin de l'année qu'il ne me reste plus rien pour faire des dons aux assos. En vrai, c'est plutôt une bonne chose cette histoire. Ça participe de la vitalité démocratique, du paysage associatif et de l'action sociale, notamment sociale, mais pas seulement sociale, de solidarité, de culture. C'est 66% max de tes revenus imposables déduits de tes impôts. Le don au Resto du Cœur, par exemple. Non. C'est le montant. C'est 66% du montant du don que tu as fait au Resto du Cœur que tu peux déduire de tes impôts dans un maximum de 20%. Il ne faut pas que cette somme que tu déduis dépasse les 20% de ce que tu dois, je crois, de mémoire. Et ce n'est pas 66% de ton revenu. Les Restos du Cœur, c'est 75. Oui, c'est la loi Coluche, c'est 75, mais alors du coup, sur le régime des 66%, je ne sais plus où est la différence. Je sais plus. Bref. Le retrait de l'ISF a fait très mal aux assos aussi. Oui, ça aussi, c'était la suppression de l'impôt sur la fortune. Enfin, la réduction de. Ben bref, le passage de l'ISF à l'IFI a effectivement eu un impact indirect sur les associations, puisque les personnes qui avant payaient l'ISF se disait, bah, quitte à payer, vu que je peux déduire des dons aux assos, bah, je vais préférer donner un peu aux assos. Ça ne me coûtera pas plus cher, mais au moins, du coup, j'aiderai. Mais maintenant qu'ils n'ont plus à payer d'ISF, bah, du coup, ils n'ont plus cet argument, et donc, du coup, ils donnent moins. Du coup, il y a des assos qui se sont dit, bah, c'est chiant, maintenant qu'il n'y a plus l'ISF, en fait, il y a une raison de moins de donner, et du coup, on a moins de dons. Ça coûte plus cher de donner. Ça coûte un peu plus cher de donner. Mais tu peux déduire une partie. Mais ça coûte un peu plus cher, oui. C'était super ton intervention la semaine dernière chez Samuel. Tu as donné une autre vision de la politique que du jeu politique à Monsieur Poulpe et Arnaud. C'était super intéressant. Oui, chez Samuel Etienne, vendredi dernier. Oui, Arnaud de Samer qui effectivement nous a expliqué à quel point il n'aimait pas la politique, ce que je comprends tout à fait. Il a très bien expliqué d'ailleurs pourquoi est-ce que pour lui la politique, machin, il en avait ras-le-bol, ce que je comprends. Et du coup, j'ai essayé de lui répondre. Alors moi, je suis pas là pour défendre la politique. Mais je lui ai dit que oui, la politique, c'est pas aimable. Pas toujours. Et que ça n'a peut-être pas vocation à l'être. Et c'est peut-être même bien comme ça. Mais ouais, elle était chouette. La loi Coluche, parce que lui qui l'a initiée. Ouais. Du coup, quand les pauvres, ils donnent, ils perdent 100% de ce qu'ils donnent. Tout le monde perd 100% de ce qu'il donne. Puisque c'est un don. C'est juste qu'au lieu de perdre une deuxième fois quand tu as des impôts à payer, tu peux déduire en partie. Les impôts, les pauvres, s'ils ne peuvent pas, si les personnes qui sont en dessous des seuils d'imposition de l'impôt sur le revenu, bah, ils n'ont pas de déduction fiscale puisqu'ils ne payent pas d'impôts. Ça reprend quand formellement Backseat? Le 15 septembre prochain en direct de la fête de l'UMA. Et il y a d'autres annonces à venir au sujet de Backseat, plus tard. Ton sujet qui passe en premier grâce à notre lobbying. Oui, j'ai vu. Merci Raven, merci le syndicat pour vos resubs, merci à vous. Il est très fort Samuel Etienne, il y a une très belle dynamique sur ses plateaux. Ah bah ça, oui, l'hebdo Etienne de Samuel Etienne, c'est une émission intéressante parce que Samuel Etienne essaye de faire se rencontrer des publics, des mondes qui ne se connaissent pas. Donc il invite des gens de la télé, des gens d'internet, des journalistes, des artistes, etc. C'est assez intéressant, hein. Je reconnais à Samuel un talent particulier pour créer cette rencontre du troisième type. Où tu peux mettre Monsieur Poulpe, Arnaud de Samer, Manon Mella et Jean Massier autour d'un même plateau. En disant, tiens, qu'est-ce qu'ils vont foutre sur un même plateau? Bah, Samuel, il réussit à faire fonctionner ça. Et ça, c'est cool. D'où je suis sub? Moi, merci au gifteur. Comment ça, d'où je suis sub? Ça fait 8 mois que t'es abonné. Merci Mister Vrael pour ton resub. C'est clair que sur le papier ça fait un peu numéro de funambule, mais ça marche trop bien. Bah pour ceux qui kiffent, oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est une émission, c'est une proposition éditoriale sur Twitch que je trouve intéressante, quoi. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais on s'en branle. L'important, c'est que ça plaise à certaines personnes et que ces personnes-là apprécient, quoi. Merci Renbo pour ton resub. Toi, ça te plaît d'y revenir souvent? Ah ouais, moi j'aime bien. Oui, j'aime bien, c'est un exercice particulier pour moi d'aller dans l'émission de Samuel. Je suis très content que Samuel m'invite, ça me fait plaisir. Et en plus, quand je viens, il dit, bah tiens, c'est l'occasion de parler de l'actualité politique. Et donc, je suis très content. Et puis surtout, oui, ça crée du coup des moments un peu lunaires, comme la discussion que j'ai eue avec Arnaud de sa mère sur le rôle de la politique dans la vie, quoi. Et c'était intéressant, enfin, j'étais intéressant, moi j'ai trouvé ça intéressant. Après, ce que le public a apprécié, j'ai eu l'impression. Merci Héloïse. Merci Gurdil pour vos resubs. T'as besoin de préparer quelque chose ou c'est de l'impro? Non, tu prépares un peu quand même. On a les sujets à l'avance et on essaie de préparer un peu notre émission, ouais. J'ai l'impression que t'as un avis très nuancé sur Samuel Etienne et sa présence sur Twitch, je me trompe? Comment ça nuancé? Un avis. Mais surtout, j'ai pas d'avis à avoir sur la présence de Samuel Etienne sur Twitch. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est sur Twitch. Je sais pas, il fait une chaîne, il propose des trucs. Ça touche un public qui apprécie, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Merci Ménoménos, merci Cyrus Flocus. Quand t'es chez Samuel, t'es un peu plus chill dans tes prises de parole, je trouve. Ah bah oui! Ah bah oui. Non mais c'est ça qui est cool. Non mais c'est vrai. C'est aussi très agréable comme Samuel réussit à créer un contexte de conversation autour du plateau particulièrement agréable, chill. Et vous savez que moi c'est plutôt un truc que j'apprécie parce que bon les plateaux télé on est tous le cul serré à faire des éléments de langage et tout. Il y a un moment ça commence doucement à me gonfler. Et lui il réussit à créer cette ambiance. C'est agréable de parler de politique dans cette ambiance-là. C'est agréable de parler d'autres choses que de politique aussi. Je suis pas un ayatollah de la politique en mode les émissions ça doit être politique du début à la fin. Non, s'il vous plaît. Toute façon, la politique est dans tout, donc on y revient toujours. Oui, après, on n'est pas obligé d'être un gros casse-couille à politiser tout sujet de conversation en permanence, tu vois? Je comprends aussi qu'il y a des gens quand j'ai juste pas envie. Non, non, mais viens juste, on parle de cinéma. Viens juste, on parle de musique, on parle de culture, on parle de. Tu manges bien chez Samuel par rapport aux premières émissions de l'hebdo. On mange très très bien chez Samuel. Oui. Merci à ce client. Merci Yosi. Vous arrivez à l'avance histoire de vous détendre un peu ou vous arrivez en direct et ça tourne? Non, non, on arrive une demi-heure avant, on a le temps de se donner un peu des nouvelles et tout. Non, c'est très très sympa. L'émission de Samuel Etienne, c'est vraiment pas une émission casse-couille en mode maquillage, arrivée plateau à la seconde près et tout. Non, c'est très très chill, détente, très agréable. C'est effectivement une ambiance de plateau très agréable. Mais et si ça, et si ça, et s'il y a des gens à qui ça plaît pas, c'est pas très grave. C'est toujours pareil, hein. Tout ne peut pas être au goût de tout le monde. Pas comme l'émission politique Backseat. Ah ouais, non, Backseat, c'est chiant. Backseat, c'est... Exactement. Les mecs ont zéro fun là-bas. Ah non, Backseat, c'est pas fun, hein. Vincent, ton chroniqueur de Backseat, a carrément un avis plus nuancé sur Samuel Etienne et son travail. Oui, je sais. Je sais, je sais. Monsieur Poulpe était vraiment sous? Non. On était pompette. Un peu trop de gauche Backseat. Oui, je sais, je sais. Je connais la critique. Je témoigne de l'ambiance exécrable de Backseat. Je crois même que Backseat en français, ça veut dire tortionnaire pas sympatoche. Exactement. Exactement, si les gens savaient. On a hâte que ça reprenne cette émission d'ailleurs. Quoi, Backseat? Ah, ça reprend Backseat? Ah, je savais pas. Bah tant mieux, c'est cool. Oh, c'est une émission que j'aime bien. Je sais pas, ça a été annoncé? Mais je sais pas, il y a peut-être des annonces à venir. Hein. À skip, ça reprend. Ah ouais. Pas vu. En septembre apparemment, mais info chat, je crois. Je crois que c'est le 15 à la fête de l'UMA. Backseat à la fête de l'UMA? Oh, les gauchistes. Oh. Ah oh, bah vraiment, hein. C'est le wokistan, Est-ce que c'est déductible d'impôt la cagnotte de Backseat? Non. Et non. Les dons à Backseat ne sont pas déductibles. Bernard Arnault a fait un chèque à Backseat suite à l'appel du créateur. Libé puis Luma, ça devient bolchevique, bientôt les chars russes sur le plateau. Le problème, c'est que, avec mon sens de l'humour de merde, je suis capable de mettre un char russe gonflable sur le plateau juste pour rigoler. Mais bon, ça fera pas rire tout le monde, et donc non. Je trouve ça drôle. Merci, Mister Yanoche. C'est commandé. Un petit char télécommandé qui vient sur le plateau de Backseat. Un peu cher la blague. Oui, un peu cher la blague. Alors ça c'est le problème, c'est que j'ai toujours des blagues, des idées de blagues de merde, mais à chaque fois il y a un budget derrière et tu dis non mais les chars russes en ce moment bof. Oui, alors, par ailleurs t'as raison. À l'époque de l'Union soviétique ça aurait été drôle. Là en ce moment bon, la blague est moins marrante. Ouais non t'as raison, la blague est moins drôle. Question complètement hors sujet, est-il possible de rejoindre des assos de partis européens sans être dans le parti national correspondant? Je sais pas du tout. J'en sais rien, ça doit dépendre des partis. Oui, il existe des partis pan-européens, ça existe. Après lesquels, est-ce que ça correspond à ton idéologie ou pas? Je ne sais pas du tout. Ça. Je suis vraiment pas sûr. Du coup, bienvenue hein, si vous nous rejoignez. Il est 16h42. À 17h, j'ai un truc à vous annoncer. Qui devrait vous faire plaisir. J'espère. Une association, ça doit être apolitique et laïque ou c'est complètement libre? C'est complètement libre. La loi de 1901 sur la liberté associative est extrêmement claire. Vous avez le droit de créer et de rejoindre une association, toute association. La seule chose que la loi implique, c'est la non-lucrativité. À partir de là, vous pouvez faire des assos de 2 personnes, de 40 milliards de personnes, vous pouvez faire des associations religieuses, vous pouvez faire des associations ce que vous voulez, vous êtes libre. Aucune obligation de laïcité, aucune obligation de quoi que ce soit. Association de malfaiteurs et l'incitation à la haine. Alors, une association, dans le cadre de son action, doit respecter les lois. L'association des automobilistes qui roulent à 140 km/h sur l'autoroute tombe sous le coup de la loi et du code de la route. Merci Mézix, merci Jules. Donc voilà, il faut respecter les lois. Faut respecter les lois. Il y a même un truc d'ailleurs, je me souviens, on avait beaucoup travaillé là-dessus quand j'étais étudiant, parce que moi je viens du secteur associatif et notamment des assos étudiantes et des associations de jeunes. Beaucoup de gens pensent qu'une association doit avoir un président, un trésorier, un secrétaire, un bureau, un conseil d'administration, une assemblée générale. Ce qu'on appelle le modèle Troisième République. Le truc vertical un peu automatique, machin. En fait, pas du tout. Il n'y a aucune obligation légale. C'est un usage qui fait que c'est assez pratique d'avoir une association qui fonctionne comme ça. Mais vous pouvez parfaitement créer votre association avec des responsabilités différentes, avec des coprésidences, avec des trucs, avec des machins, avec des présidences tournantes, démocratie liquide. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir une démocratie dans votre assoce, hein. Aucune obligation d'avoir une association démocratique, hein. Il n'y a pas d'obligation, la préf est très chiante dès que c'est un autre système. Alors il y a des préfectures qui peuvent être reloues pour l'enregistrement de l'association, mais en principe ils n'ont pas le droit d'être reloues. Ceux qui par contre peuvent être reloues, alors ça par contre, oui, ça c'est votre problème. Hein. Si vous choisissez d'avoir une association qui a un modèle de ouf, ça risque d'être, ça peut être compliqué d'ouvrir un compte en banque, d'avoir une assurance. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est votre problème. Hein. L'AG n'est pas obligatoire. L'AG n'est absolument pas obligatoire. Par contre, ce qui peut être obligatoire dès lors que tu touches de l'argent public, par exemple, mais vous n'avez aucune obligation de toucher de l'argent public quand vous faites une assoce, hein. Vous pouvez juste mener des activités avec les cotisations des gens et avec des dons, etc. Là, par contre, oui, dans certaines limites, il faut un commissaire aux comptes, il faut une certification des comptes, il faut un arrêté annuel des comptes, il faut une gestion comptable, etc., une transparence, une traçabilité. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre aux associations, c'est absolument tout le monde. Donc si vous cherchez à obtenir des agréments publics, de l'argent public, des partenariats avec des mairies, des conseils départementaux, régionaux, l'État, des ministères, etc., ah bah là oui, là vous allez devoir avoir des obligations, effectivement, d'organisation spécifique, de démocratie, de traçabilité, de responsabilité, de machin, etc. Mais une association de loi 1901, c'est une organisation de droit privé, fondée entre des personnes privées qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Vous pouvez créer une association non démocratique de 2 membres qui font ce qu'ils veulent. Enfin, qui font ce qu'ils veulent, dans le respect des lois de la République. Et si c'est votre truc, rien ne vous en empêche. En revanche, vous ne pouvez pas vous enrichir personnellement. Exactement, c'est le principe de la non-lucrativité des associations. Les associations ne peuvent pas enrichir leurs membres. Elles peuvent dédommager leurs membres via des remboursements de frais, d'avances de frais, de choses comme ça. Mais elle ne peut pas, vous ne pouvez pas répartir le pognon de la caisse entre les membres de l'association. Ça s'appelle plus des. C'est plus une association de 1901, ça devient ce qu'on appelle une entreprise, une société, qui rémunère ses sociétaires, qui sont de fait des actionnaires, qui ont une action, participent aux bénéfices de l'entreprise. Elles peuvent salarier. Elles peuvent salarier, les associations peuvent salarier, en revanche, les membres dirigeants de l'association ne peuvent pas être salariés de l'association. Alors, il y a des exceptions à ça de mémoire. Tu peux indemniser en partie les dirigeants de l'association, mais c'est un peu spécifique. Qu'est-ce qui empêche de se faire salarier avec 10 000 euros par mois? Bah, tu peux pas présider une association dont tu es salarié à 10 000 euros par mois. Par contre, si tu veux mettre des hommes de paille à la tête de ton association dont tu te salaries comme un connard, bah, ça s'appelle un détournement de. Détournement de. Non, un abus de bien social. C'est un délit. Et rendez-vous au tribunal. Mais ça, c'est ton problème. À la place de générer des bénéfices, peut-elle se créer un patrimoine? Bien sûr! Une association peut parfaitement se créer un patrimoine. Bien sûr. J'ai participé à organiser dans une association, on m'a filé 100 euros en liquide, c'est illégal. Bah oui, c'est-à-dire soit tu avais un contrat de travail, auquel cas on te fait un versement sur ton compte bancaire de 100 euros conformément au contrat de travail applicable. Sinon, ça s'appelle du black, hein. On t'a filé un pourboire, quoi. Merci, Adra. Avoir un patrimoine immo et toucher des loyers. Oui, mais c'est l'association qui touchera des loyers. Non mais de toute façon, bon, si vous êtes dans une logique business, si vous êtes dans une logique d'enrichissement, de faire de la moula, créez pas une assoce, vous allez vous emmerder. Je vous jure, le statut loi 1901 n'est pas du tout ce qu'il vous faut. Il y a aucun monde dans lequel c'est une bonne idée de créer une asso pour se faire du fric. Ça fait juste de vous un très mauvais businessman. C'est tout aussi facile de créer une entreprise. Alors là, plutôt que d'aller à la préfecture déposer des statuts d'association, tu vas au greffe du tribunal de commerce déposer des statuts d'entreprise. Là, t'as le droit de t'enrichir, t'as le droit de te faire un max de fric. Voilà, une association, dites-vous qu'une asso, c'est un gouffre à pognon, à énergie et à temps. C'est très bien, moi j'adore, moi je viens de là, c'est mon truc, j'adore ça, c'est un engagement extraordinaire et tout. On ne sait pas de pognon. Hein. On rencontre des gens extraordinaires, on mène des projets trop cool, l'intérêt général, tout ça, c'est génial. Mais pas de. Non. L'argent, c'est pas là. C'est ça la vraie richesse. Exactement. La richesse, finalement. Est-ce que c'est pas l'amitié entre les membres? Je croyais que la richesse, c'était de déposer son dossier à la CAF. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. L'enrichissement, c'est l'allocation d'entrée scolaire. Donc faites des gosses. Apparemment, c'est un bon plan pour se faire du pognon. Moi, je vois les parents autour de moi, à part avoir des nuits assez courtes, j'ai pas l'impression qu'ils roulent sur le pognon. Mais je peux me tromper. Est-ce que tu es actif dans une ou des assos actuellement? Alors actuellement, non, je ne suis pas membre d'une association, mais je profite de mon activité sur Internet pour présenter des assos, notamment dans le cadre de Baxit, où vous m'avez vu à plusieurs reprises inviter des associations à venir vous parler. C'est ma manière à moi de m'engager. L'ARS pour enfin arrêter d'acheter des TV cathodiques et avoir des écrans plats. Oui. T'as même fait du surf pour une asso. J'ai même fait du surf pour une asso. C'était trop bien. Avec la Surfrider Foundation. Est-ce que je l'ai toujours la gourde? Ouais. La gourde de la Surfrider Foundation. Super bonne association, extraordinaire, des gens adorables, qui militent et qui se mobilisent toute l'année en France et en Europe pour la protection des écosystèmes aquatiques le long des côtes, dans la mer, dans les rivières, dans les lacs. Allez mater la vidéo. Oui, la vidéo est sur ma chaîne YouTube, hein, si vous voulez me voir faire du surf. Subs! Merci beaucoup Sarah pour les 10 subs offerts au chat!
Combien?
10 subs!
Combien?
10 subs offerts au chat, merci beaucoup Sarah, c'est super généreux de ta part, merci! Incroyable! Allez, tout le monde s'ambiance dans le chat! Merci beaucoup Sarah, c'est très généreux. Merci pour les 10 subs offerts au chat. Merci pour ce beau cadeau et bienvenue aux nouveaux abonnés qui auront la joie, l'immense et le privilège, la joie, le bonheur et le privilège de renouveler leur abonnement le mois prochain. Vous aussi, cliquez sur le petit bouton violet, se réabonner. C'est comme ça que ça marche. Et vous allez ressentir un shot d'endorphine, vous verrez, c'est extraordinaire. Il est 16h54. Dans 6 minutes, j'ai un truc à vous annoncer. Si vous êtes sage. Moi, j'ai un écran plat grâce à mon gamin. Il a fait tomber l'ancienne TV. Du coup, j'ai dû en racheter une nouvelle. Ouais, vous voyez que les gamins, ça permet d'avoir des télés. Merci, Eluriel, pour ton resub. Annonce, annonce. Non, je vous propose. Attendez, on va faire mieux que ça. Je vais aller aux chiottes. Je vais me refaire un café. Je vous laisse avec la chaise pendant 5 minutes. Et après, je reviens. À tout de suite. Sloubi 81. Bravo. Ah, vous êtes toujours là? Ah bah ça fait plaisir. Je suis content de vous offrir ce stream de très très grande qualité. Vous savez, c'est un métier, hein. Ah. Cet air satisfait. Ah ouais. Il est 17h. Alors, je vous annonce que je ferai une annonce à 17h30. Non, je déconne. Oh, ça va, on peut rigoler. Permettez, je bois mon café. Aux armes. Ah. Oh que non. On parlait de quoi? Ah, c'est vrai, ça, on parlait de quoi? Non, j'arrête de vous faire languir. Bon, alors, chers amis, comment vous dire? On est en pleine rentrée politique. Vous connaissez la rentrée politique. C'est important, la rentrée politique. C'est quoi la rentrée politique? Il y a les partis politiques qui font des universités d'été à la fin de l'été. Voilà, on met la clé dans le démarreur, on démarre l'été tranquillement, on phosphore au soleil pour discuter du programme, de l'idéologie, de machin et tout. Bon. Il y a la rentrée du Parlement. L'Assemblée nationale reprend ses travaux à la fin du mois de septembre. Voilà, on connaît, on se dirige vers le budget, tout ça, les députés, machin, machin. On a le gouvernement qui fait des annonces. On a Elisabeth Borne qui donne une grande interview à RTL. On a Emmanuel Macron qui organise un petit séminaire de rentrée avec les chefs de parti pour papoter jusqu'à 3h du mat. On a Hugo Décrypte qui fait une interview du président de la République pour la rentrée scolaire. On a le sempiternel débat de la rentrée scolaire. Alors ça dépend des années. Cette année c'est l'abaya. Avant c'est, je sais pas, il y a plein de trucs. Le poids des cartables, machin et tout. Etc. etc. Vous connaissez la rentrée politique. Mais il y a chaque année un événement autrement plus important et qui marque vraiment la rentrée politique, très très importante, qui se passe au niveau européen. Et au niveau européen, il y a quoi? Chaque mois de septembre, un événement majeur de la vie politique, c'est le débat sur l'état de l'Union européenne. Le débat sur l'état de l'Union européenne, c'est le point de départ de la rentrée politique au Parlement européen, pour l'ensemble de la classe politique européenne, pour l'ensemble des institutions européennes. C'est un moment extrêmement important et très attendu. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cette année, en partenariat avec le Parlement européen, vous allez pouvoir suivre en direct avec moi, mercredi prochain, le débat sur l'état de l'Union, en direct de Strasbourg. Je serai à Strasbourg physiquement. Pour vous diffuser en version française et vous commenter le débat sur l'état de l'Union. Et je serai ensuite en plateau avec des députés européens francophones, français, représentant les différentes sensibilités politiques au Parlement européen pour analyser ensemble cette rentrée politique européenne. Voilà l'annonce que je tenais à vous faire aujourd'hui. Le débat sur l'état de l'Union sera diffusé sur ma chaîne avec et sera suivi d'un plateau. Pour analyser tout ça. Le débat sur l'état de l'Union. Alors, vous connaissez peut-être aux États-Unis d'Amérique, nos amis américains, ils ont le discours sur l'état de l'Union. Le président des États-Unis d'Amérique, chaque année, prononce un discours au Congrès américain pour célébrer l'unité américaine. Exercice obligé, le président vient parler, les partisans applaudissent, les opposants disent rien, et à la fin, il se barre, merci, au revoir. Mais nous, on est en Europe. Nous, on est en Europe. Merci, Ken Bogard, pour ton raid. Nous, on est en Europe. Et en Europe, on est des fieffés démocrates. Nous, on veut pas juste un discours et des applaudissements. Non, 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 non. Nous, s'il n'y a pas de débat, on se fait chier. Donc, en Europe, on fait pas juste un discours. On fait un débat. Le débat sur l'état de l'Union, qui aura donc lieu en direct sur ma chaîne mercredi prochain, commencera par un discours prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui va fixer les priorités de la Commission pour l'année à venir, qui va faire le bilan de l'année passée. Un discours très attendu, des annonces attendues. Et ensuite, plutôt que d'aller se barrer et boire un cocktail, il y aura un débat, c'est-à-dire une prise de parole des représentants des différents groupes politiques du Parlement européen qui vont à leur tour s'exprimer pour dire ce qu'ils en pensent. Vous allez donc suivre sur ma chaîne. A priori, ça devrait commencer. Alors, de mémoire, ça commence à 9h du mat, 9h30, un truc comme ça. Alors, même parfois, c'est plus tôt, hein. En tout cas, moi, je prendrai l'antenne avant. Bref, mercredi matin, vous mettez votre réveil. À partir de 8h30, je suis en live. À 9h, on suit ensemble le discours de Ursula von der Leyen. On écoute attentivement, on prend des notes, on commente. Et ensuite, on écoute une succession de prises de parole des députés européens qui représentent les différents groupes politiques et qui, à leur tour, prononcent un discours pour dire ce qu'ils en pensent. Et ensuite, rendez-vous en plateau avec des eurodéputés français, pareil des différents groupes politiques du Parlement européen, pour discuter avec eux de leurs priorités, de machin, etc. Ce sera mercredi prochain, de la semaine prochaine donc, en direct, sur ma chaîne. Voilà. Merci Toto Radio pour ton resub. Est-ce que tu seras le seul host sur le plateau? Oui! Oui. Député francophone, où tu auras des traducteurs avec moi. Alors, l'ensemble du débat que je vais diffuser et commenter sera avec des interprètes qui traduiront en français les interlocuteurs, enfin les personnes qui parlent, les orateurs et oratrices qui ne parlent pas français. Donc, vous aurez tout en langue française avec des interprètes ou alors c'est des gens qui parleront français. Et ensuite, sur le plateau, il n'y aura que des Français. Okay? Donc, si vous ne parlez pas un mot d'une autre langue que le français, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre l'ensemble du stream. C'est le matin. Ouais, c'est le matin. Enfin, c'est le matin. Le débat commence à 9h. Moi, je prends mon stream à 8h30. Débat à partir de 9h. Et plateau probablement à partir de midi, 13h. Je sais plus. Un truc comme ça. Donc, on va passer la matinée ensemble, les amis. Hein. C'est 9h-13h. Ouais, c'est ça. C'est 9h-13h. Et à partir de 13h, c'est en plateau avec moi pour. Voilà. Pour les noobs comme moi, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est un événement? Alors, c'est un événement parce que c'est un moment très attendu politiquement. C'est le moment où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours au cours duquel elle fixe les objectifs et les caps que va suivre la Commission européenne et donner une impulsion politique pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est le moment de faire le point sur des dossiers importants en matière de droit, en matière d'environnement, en matière d'affaires étrangères. En ce moment, il y a l'Ukraine, je vous rappelle quand même. En matière de droit de la concurrence, en matière de culture, en matière de formation, en matière de tous les sujets d'actualité les plus importants. Il faut s'attendre à des annonces de la part d'Ursula von der Leyen, parce que c'est à l'occasion de ce discours qu'elle annonce des trucs. Et ensuite, les groupes politiques ont l'occasion aussi de s'exprimer et de donner leur position globale sur l'ensemble des grands dossiers européens. C'est un moment très important. C'est un moment très important. Deuxième raison pour laquelle c'est très important, ce débat cette année. Parce que, pour trois raisons. D'une part, il y a des dossiers assez brûlants en ce moment au niveau européen. Hein? Je vous rappelle qu'on est quand même en guerre, quand même, sur le sol ukrainien, avec une forte aide des pays européens. Il y a le climat, c'est quand même pas rien. Il y a quand même des actions qui sont menées. Il y a un plan de relance européen assez massif qui a été initié il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, on a des dossiers quand même un peu chauds et un peu structurants pour l'avenir du continent et en partie pour l'avenir du monde aussi. Voilà, je vous fais pas le topo aussi sur la guerre commerciale sino-américaine, etc. Deuxième raison, on est à 1 an des élections européennes. C'est-à-dire que les députés européens que vous allez voir, ça va être la dernière fois qu'ils se présenteront à un débat sur l'état de l'Union avant les élections. Donc c'est aussi un peu un moment de bilan sur les 5 dernières années. Et en plus de ça, Ursula von der Leyen, bah c'est sa dernière année en tant que présidente de la Commission. Donc elle aussi, c'est un peu son bilan qui va être fait. Et elle va s'en prendre plein la gueule de la part de ses opposants. Et elle va peut-être se faire féliciter de la part de ses partisans, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle ne peut pas être conduite. Elle peut potentiellement être reconduite si d'aventure le Conseil européen le souhaite, etc. Mais ça, c'est. Voilà, et le Parlement également, d'ailleurs. Donc voilà. Donc, je me permets de vous inviter fortement à suivre ma chaîne mercredi prochain, parce que ça va être un moment majeur de la vie politique européenne, avec des sujets un chouïa plus important que l'abaya. Sujet intéressant au demeurant, mais une rentrée politique. C'est pas que des petites polémiques qui succèdent. C'est aussi des dossiers un chouïa plus structurants qui sont abordés dans des enceintes autrement plus importantes que des plateaux télé, par exemple le Parlement européen à Strasbourg. Donc voilà. Le PPE ne l'aime pas du tout parce qu'elle a lancé le Green Deal. Ah oui, en plus sur Ursula von der Leyen. Elle est trop de gauche pour les gens de droite, elle est trop de droite pour les gens de gauche, elle suscite des débats, c'est compliqué. Effectivement, elle a lancé le Green New Deal qui énerve beaucoup de gens, elle a des ambitions bas carbone, etc. Elle veut que le continent européen soit le premier continent neutre en carbone à la surface de cette planète, machin. Il y a des enjeux quand même en ce moment, machin. Il y a la question migratoire aussi, qui est assez importante en Europe. Merci Tati pour ton abonnement. Donc voilà quoi. Est-ce qu'on peut faire un rappel de la différence du Parlement européen et du Conseil de l'Europe? Ouais, je vous le refais très rapidement, vous allez l'avoir en tête, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a trois institutions au niveau européen à garder en tête. Il y a la Commission européenne, présidée par la présidente de la Commission européenne, qui est un peu l'exécutif et la gardienne des traités, donc ça veut dire que c'est un peu eux qui gardent le cap de la législation européenne et qui impulse les politiques, en grande partie. Vous avez le Conseil européen, qui est un sommet, c'est pas une institution qui siège toute l'année, hein, qui travaille toute l'année, c'est un sommet des chefs d'État européens, membre de l'Union européenne. Donc c'est le moment où voilà, Scholz, Macron, etc., Meloni se retrouvent dans une salle tous ensemble pour fixer des caps politiques et pour trancher des trucs. Ça, c'est le Conseil européen. Et ensuite, vous avez le Parlement européen. Et le Parlement européen, bah, c'est un Parlement. Hein, donc ça, c'est facile. C'est des députés européens. Ils sont élus par vous. Les prochaines élections, c'est l'année prochaine. Voilà. Et vous rajoutez à ça le Conseil des ministres qui travaille en lien avec le Parlement européen pour négocier les paquets législatifs et les réglementations qui sont en cours d'élaboration. T'as oublié le Conseil de l'UE qui vote. Ben non, je viens d'en parler justement. Conseil des ministres de l'Union européenne qui participe à la prise de décision en lien avec la Commission et le Parlement européen. Ces trois institutions travaillent de concert dans ce qu'on appelle un trilogue. Je rentre pas dans le détail, mais ce sont des négociations entre ces différentes institutions pour parvenir à des compromis qui permettent de donner naissance à des législations et des législations un peu importantes. Voilà, droit de la concurrence, libre circulation des personnes et des biens. Climat, investissement, voilà quoi. On est sur des trucs un peu vénères. Est-ce que c'est retransmis en ligne les débats au Parlement européen? Les débats au Parlement européen, notamment le discours sur l'état de l'Union, est diffusé sur la chaîne Twitch de Jean Massier en direct de Strasbourg, mercredi prochain. Quoi de mieux? Ah, et blague à part, pour le reste, oui, il y a un site internet du Parlement européen avec des diffusions, avec des comptes rendus, etc. Tout ça est extrêmement bien fait. Est-ce qu'ils vont parler du DSA-DMA? Bah, bien sûr, évidemment. Alors ça, le DSA-DMA, c'est le gros paquet législatif autour du numérique qui est entré en vigueur, qui est en train d'entrer en vigueur petit à petit, et qui a un mastodonte qui a mis des années à sortir, qui est très important, etc. Machin. Donc, si tu veux, le contrôle des GAFAM, la limitation du pouvoir de Facebook, d'Amazon, de Microsoft, d'Apple, etc. L'intelligence artificielle, la réglementation, etc. Tout ça, c'est des sujets lourds. C'est quoi ce truc DSA-DMA? DSA-DMA, ça veut dire Digital Services Act et Digital Market Act. Ce sont deux paquets législatifs qui s'occupent pour l'un du marché numérique, de la régulation des plateformes de marché, donc de vente de biens et de services, et pour l'autre des services numériques. Et les services numériques, bah, c'est ce qui va toucher assez directement le consommateur. Toi, tu me diras le marché aussi, mais c'est nos plateformes. Les GAFAM, la transparence des algorithmes, le contrôle, etc., etc. La régulation du numérique. Donc voilà. Modération de contenu, abus de concurrence, responsabilité juridique, etc. Ouais, exactement. Donc ça brasse beaucoup de sujets, mais des sujets extrêmement importants. Et puis par ailleurs, le DSA-DMA, c'est aussi une certaine philosophie européenne vis-à-vis du numérique. Il y a un modèle californien du numérique que nous connaissons bien, clairement, hein, le modèle de la start-up. Il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut. Elon Musk peut claquer des milliards pour faire ce qu'il veut avec un réseau social comme un joujou. Ça, c'est le modèle californien. Il y a un modèle chinois du numérique, voilà, étatisé, avec un contrôle délirant de la population matin, midi et soir, etc. Et au milieu de ça, bah, il y a l'Europe qui essaye de réfléchir à créer une autre philosophie, une approche plus réglementée, plus régulée, de protection des consommateurs, régulation des contenus en ligne, protection des plus fragiles, transparence des algorithmes, etc. Donc il y a aussi une Europe qui essaye d'exister politiquement via une certaine vision des choses. Pour le meilleur comme pour le pire, hein, je suis pas en train de vous défendre le DSA-DMA, c'est critiqué, c'est soutenu, c'est défendu, c'est voilà. Et ça, vous allez en entendre parler mercredi prochain. Soyez là. Entre le Far West et la dictature. En gros, c'est ça. Entre le Far West de la Silicon Valley, avec des tarés comme Elon Musk, et la dictature du Parti communiste chinois, c'est quoi le modèle européen d'Internet, du numérique? Ben voilà. Excellente question. Tu seras sur un plateau rien que pour toi ou bien ça marche comment? Oui, je serai sur un plateau rien que pour moi. Je serai sur un plateau au cours duquel j'aurai des députés européens. On a déjà, alors je peux déjà vous annoncer qu'il y aura François-Xavier Bellamy pour les Républicains et Manon Aubry pour la France Insoumise. Qui m'ont, eux, ils ont dit oui, ils seront là, et les autres, on est en train de discuter avec leurs entourages pour les avoir, etc. Donc je vous annoncerai au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, ils seront là. Est-ce qu'il y aura l'extrême droite? Oui, il y aura l'extrême droite. Enfin, on les invite en tout cas, parce que c'est dans le cadre d'un partenariat avec le Parlement européen. On respecte la diversité des points de vue du Parlement européen, exprimés au Parlement européen. Manon Aubry, c'est la chef de la gauche au Parlement européen. Manon Aubry, c'est la présidente du groupe des députés européens de la gauche, de la GUE, gauche unie européenne. GUE, comme on dit dans le jargon. Ce sera une première pour toi d'interviewer l'extrême droite. Non, 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 j'ai déjà interviewé des eurodéputés d'extrême droite. Là, l'émission que je vais faire, vous l'avez déjà vue sur ma chaîne, hein. On l'a déjà fait les années précédentes, on faisait déjà le même partenariat avec le Parlement européen pour le débat sur l'état de l'Union. La différence, c'est qu'avant, j'étais chez moi, donc on le faisait en visio, mais il y a déjà eu des eurodéputés d'extrême droite qui sont venus sur ma chaîne répondre à mes questions suite au débat sur l'état de l'Union. Il y aura que des Français. Sur le plateau, il y aura que des Français. Ah oui, moi j'ai pris. Enfin, moi je vais interviewer. Je suis une chaîne en langue française. On parle en langue française, donc j'invite les eurodéputés français à venir parler au nom de leur groupe sur mon plateau. Mais par contre, dans le débat sur l'état de l'Union avant, il y aura des gens de toutes les nationalités. Enfin, vous allez entendre des députés européens de tous les pays membres de l'Union européenne. Enfin, pas de tous, parce que. Pas non plus 27 personnes qui prennent la parole, mais voilà. Merci Vibon. Et les Belges francophones alors? Eh ben les Belges francophones, bah peut-être que les groupes politiques nous en. Mais non, pas, enfin, je suis en partenariat avec le bureau en France du Parlement européen, qui s'occupe de la représentation des eurodéputés français au Parlement européen. Donc il n'y aura que des Français sur mon plateau. Pourquoi t'interviewes des mecs d'extrême droite devant l'Union européenne et pas à Baxi? Du coup, c'est quoi la différence? La différence, c'est que cette émission au Parlement européen est faite en partenariat avec le Parlement européen. Le Parlement européen, par définition, c'est une institution au sein de laquelle siège plein de députés de plein de groupes, et le Parlement européen reste neutre vis-à-vis des groupes. Et donc quand ils font des partenariats avec des mecs comme moi, la règle, qui est logique, c'est que bah, on invite les députés de tous les groupes représentés au Parlement européen. Bah si, je suis pas en partenariat avec le Parlement européen. Donc, je fais ce que je veux. Est-ce que tu as vu la série Parlement? Bien sûr que j'ai vu la série Parlement, j'ai même fait une émission en partenariat avec la série Parlement. Sur ma chaîne Twitch. Abonnez-vous. On a interviewé. On a interviewé le scénariste, on a interviewé l'acteur principal, Xavier. C'était trop bien. C'est vrai que ce serait sympa un jour d'avoir la vision de parlementaires d'autres pays européens. Alors vous savez, vous allez être déçus. Hein. Vous allez être vraiment déçus parce que si je reçois un parlementaire européen belge sur mon plateau, il va pas parler au nom de la Belgique, hein, il va parler au nom de son groupe politique au Parlement européen. C'est ça, le Parlement européen. C'est les gens, ils parlent pas au nom de leur pays. Ils parlent au nom de leur groupe politique et ils ont une vision pour toute l'Europe. Manon Aubry, elle va pas parler que de la France sur le plateau de que je vais faire. Elle va parler de tous les gens au niveau européen, de etc. Poum, poum, poum. La série est sur le Parlement européen. La série Parlement est effectivement une série qui se passe au Parlement européen, qui est une très bonne série, très rigolote, que je vous invite à regarder si vous n'avez jamais regardé, c'est très 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 bien. Et c'est fait par France Télévisions. Merci Ethico. Merci Bourbité. Merci Will Pietrak. C'est bien le 13 à 9h. C'est le... Attends, je revérifie pour pas dire de conneries, parce que je me connais, je vais dire des conneries. C'est le mercredi 13, à partir de 8h30 du matin, en direct sur ma chaîne. Et ça va durer jusqu'à 14h30, 15h. Est-ce que tu sais s'il y aura des streamers d'autres pays qui font la même émission? J'en sais rien du tout. Moi, je suis en lien avec le bureau en France du Parlement européen. Je suis pas en lien avec les autres pays, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. C'était ça l'annonce, OMG, j'ai encore raté. Eh oui, tu as raté l'annonce, c'est terrible! C'est terrible! C'est terrible, tu as raté l'annonce. Mais du coup, c'est pas grave, tu vas pouvoir mettre ton réveil mercredi prochain à 8h30. Voilà, c'est tout. Tranquille. Quelles figures que l'on ne connaît pas seront mises en avant avant l'événement? Lors de l'événement, doit-on se renseigner certaines personnes? Alors, je serai là pour commenter. Je serai là pour vous présenter les personnes qui prennent la parole. Rassurez-vous. Après, je sais pas qui tu connais et qui tu connais pas, j'en sais rien, mais Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c'est un bon début. Et puis après, voilà, ça va être des chefs de parti. Je ne sais pas encore qui sont les orateurs, j'ai pas encore la liste, on verra. Et sur mon plateau, bah, ça va être des représentants, ça va être des eurodéputés français. Bah, par exemple, Manon Aubry, c'était la tête de liste de la France insoumise en 2019. François-Xavier Bellamy, c'était la tête de liste des Républicains en 2019. Et les autres, on est encore en train d'attendre leur réponse. Est-ce qu'on aura des têtes de liste, des chefs de parti, des députés européens moins connus? Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi qui choisis tes invités? Bah, on travaille avec le bureau en France du Parlement européen et du coup on a contacté tous les groupes en leur disant, en invitant les eurodéputés, en disant bah voilà, qui vous pouvez nous envoyer? Et puis voilà. Et puis c'est les groupes qui nous disent bah, on vous propose de vous envoyer tel eurodéputé, est-ce que ça vous va? Et nous on dit oui, bah, très bien, merci. Dis-moi quand tu veux que je te briefe. Ouais, carrément, carrément. Merci, Map Assistant. Merci, merci. Ce sera un rendez-vous plus ou moins régulier ou une seule fois. Dizos, t'as déjà dit. Bah non, là, c'est un événement avec le Parlement européen à l'occasion du débat sur l'état de l'Union. Donc, c'est une fois par an, quoi. C'est à l'occasion de cet événement majeur de la vie politique européenne, on fait une émission en partenariat. Comment tu fais si l'extrême droite ne souhaite pas participer à ton live? On fait ça, c'est pas grave. C'est pas obligatoire. Hein. Tu vas les interviewer un par un ou bien c'est un débat? Trois par trois, on va faire. Il y a six groupes qui seront représentés et on les invite trois par trois. Voilà, on va faire un premier plateau avec trois et un deuxième plateau avec trois. Voilà. Donc ça va être cool, ça va être cool, ça va être intéressant, ça va être intense, ça va être politique, dans le bon sens du terme. Je suis très content de vous, je suis très content de vous proposer cette émission mercredi prochain. Du coup, tu es sponsorisé par le Parlement européen, c'est pas un groupe public. Je comprends pas ta question. C'est un partenariat entre ma chaîne et le Parlement européen, dans le but de vous proposer une couverture de cet événement majeur de la vie du Parlement européen. Éminemment politique, cette émission. Ah, ça va être éminemment politique, ça je te le garantis. Est-ce que tu es drivé pour tes questions? Ah non, je suis pas drivé pour mes questions. Bah non, enfin, je prépare mon interview, quoi. Moi, mon but, c'est qu'ils s'expriment, eux. Mon but à moi, c'est que vous, en regardant l'émission, vous compreniez ce que chacun des groupes défend. Comment eux voient les choses. T'as des chroniqueurs? Non, j'aurais pas de chroniqueurs. Tu nous embêtes, Jean, on n'a plus d'arguments pour râler sur tes émissions. Oh, je suis navré, je suis navré. Pardon. Bon, évidemment, je suis en train de m'y prendre comme un sac, donc j'ai pas trouvé d'hébergement et tous les hôtels sont pleins à Strasbourg, mais je vais me démerder. Je vais trouver un canapé sur lequel échouer pour dormir à Strasbourg. C'est un partenariat rémunéré? Oui, c'est un partenariat rémunéré. Il y a des canapés au Parlement. Ah, oh, vas-y, je vais roupiller au Parlement. Les hôtels à Strasbourg, quand il y a une session du Parlement, c'est un enfer. Ah, bah, je sais, j'ai découvert ça. Moi, comme une fleur, je commence à regarder les hôtels une semaine avant en me disant, tiens, est-ce qu'il y a un hôtel dispo? Et je me rends compte qu'en fait, non, il n'y a juste aucun hôtel qui a des lits dispo. Évidemment, c'est le Parlement européen, c'est le truc le plus important de l'année. Il y a tous les journalistes de la planète qui sont là, il y a tous les politiques, il y a tous leurs entourages et tout. Il y a rien. C'est pas grave. Canap dispo à 10 minutes du Parlement si tu veux. En vrai, vous êtes sympa. Hein. Merci beaucoup pour votre aide. Si vraiment je suis à la ramasse, je me tournerai vers vous en disant, il n'y a pas un Strasbourgeois qui habite pas trop loin du Parlement qui peut m'accueillir parce que je dois me lever tôt et tout. Est-ce que tu donnes une liste des questions avant l'interview pour qu'il prépare? Non, je ne donne pas une liste de questions déjà parce que moi-même je la connais pas la liste de questions. Puis par ailleurs, il y a le chat aussi voilà, qui réagit. Non, je ne donne pas une liste de questions. Par contre, je dis à mes interviewés de quoi on va parler dans l'émission. Puis de toute façon, il n'y a pas de piège. Hein. Je leur dis, je vous invite en plateau pour réagir au débat sur l'état de l'Union et donc nous dire ce que vous défendez comme vision pour l'Europe, comme bilan de cette mandature, etc. Machin. Voilà. Il n'y a pas de surprise, hein, c'est pas. Il y a 10 000 personnes qui débarquent pour une plénière, donc oui, un hôtel ça monte. Ah ouais, non, il y a 10 000 personnes qui débarquent à Strasbourg juste pour par chaque plénière, putain. Ouais. Demande à Ursula, elle a peut-être un canapé. Ah ouais, tiens, Ursula, elle peut m'héberger. Non, mais Ursula, elle dort pas à Strasbourg. Elle est à Bruxelles. Tu vas être où lors du discours dans la salle? Alors, je serai pas dans l'hémicycle du Parlement européen, non, certainement pas. Je serai dans une salle à côté. On est en train d'organiser ça. Rassurez-vous, on est en train d'organiser ça. J'espère qu'il y aura du café, tout ça, tout ça. Je serai sur la scène. Ah, je serai sur la scène, assis à côté de la présidente du Parlement. Tranquille. Est-ce qu'il y aura des traducteurs pendant l'interview? Pendant le débat sur l'état de l'Union que je vais diffuser, oui, il y aura des interprètes. Pour faire la traduction en direct en français. Et pendant l'interview, il n'y aura pas besoin d'interprète puisque ce seront que des Français qui parleront. Et donc du coup, pour le jargon, le débat sur l'état de l'Union en anglais, ça se dit State of the European Union. State of the European Union, État de l'Union européenne. Et son acronyme, c'est SOTEU. Donc, on appelle ça le sauteux. Je vais donc commenter le sauteux. Et ça fait des mois que je prépare le sauteux. Avec le Parlement européen, on échange des mails à propos du sauteux. Voilà. Petit sauteux-l'eau. Une petite sauterie, finalement, absolument. Est-ce que des chefs de gouvernement participent à ce débat? Absolument pas. C'est un débat au Parlement européen. Les chefs de gouvernement ne sont pas invités, ils ferment leur gueule. C'est pas à leur moment de parler, là c'est aux députés européens de s'exprimer. Chef du gouvernement, ils ont d'autres occasions, mais là c'est au Parlement. J'ai toujours dit sautu perso. Non, mais moi je dis sauteux. Ah ouais, non, moi je dis sauteux. Est-ce que tu kifferais d'avoir von der Leyen ou des responsables étrangers sur Baxit pour les actualités politiques? Bah oui, moi j'aimerais bien, évidemment, politiquement, ça m'intéresse beaucoup d'interviewer Ursula von der Leyen. C'est quand même très intéressant comme interview politique à imaginer. Le problème, c'est qu'elle parle mal français. Elle parle le français, Ursula von der Leyen, mais elle parle pas assez bien le français pour se sentir à l'aise sur un plateau comme Baxit, où ça va quand même assez vite, etc. Donc je pense pas que Ursula von der Leyen soit une bonne invitée sur Baxit. Je débarque un peu, ce sera à quelle heure? Ce sera à partir de 8h30 du matin, mercredi 13. Mettez votre réveil, mettez-vous une alerte dans votre agenda, renouvelez votre abonnement, tout ça, vous serez prêt, ça va être parfait. Toi, tu parles anglais? Bah, j'ai le même défaut que tout le monde, c'est-à-dire que oui, je comprends très très bien l'anglais, je le parle pas très bien, je manque de vocabulaire et je cherche mes mots. C'est quand les élections européennes? C'est l'année prochaine. T'as un niveau C1? Je sais pas quel niveau j'ai en anglais. J'ai le niveau de celui qui regarde des séries en anglais et des vidéos sur Internet en anglais depuis 10 ans, mais qui a peu l'occasion de pratiquer l'anglais. Ils vont t'envoyer les impétrants pour les têtes de liste aux européennes du coup. Bah ils peuvent, hein, s'ils veulent. Moi ça me va, hein, je m'en fous. Moi je m'en fous, ça me va. Donc ça va être cool. Donc il faut que je fasse un tweet d'annonce. Faut que je fasse un tweet d'annonce pour le rajouter dans les annonces. Et puis voilà. J'ai encore d'autres trucs à vous annoncer, hein. Ça c'était l'annonce du jour, mais je crois qu'on va pas être loin d'avoir une annonce par jour là d'ailleurs. Merci, à piste à l'heure. Est-ce que ça t'a pris du temps pour décrocher ce méga truc? Non, j'ai le plaisir de travailler en partenariat avec le Parlement européen depuis plusieurs années maintenant, sur cette chaîne. On a fait des belles émissions par le passé, du coup maintenant on se connaît bien, et on était très enthousiastes, eux comme moi, à l'idée de travailler ensemble sur cet événement. Donc non, non, ça a été, les discussions ont été faites avant l'été. Merci Alpen Yeti et merci Miss Lune 8 pour vos resubs. C'est quoi un impétrant? Un impétrant, c'est un prétendant. C'est ça, un impétrant. Les modos, vous pouvez faire une commande sur l'annonce SVP. Ouais, alors attends, je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. Alors, Mobot. Mon petit Mobot. On va rajouter une commande sauteux. Hop. Et là, je mets mercredi 13 septembre de 8h à 15h. Live exceptionnel depuis Strasbourg pour le débat sur l'état de l'Union européenne. Voilà. Et je le rajoute dans le titre du live, point d'exclamation sauteux. Va falloir qu'on achète des slots. Bah ça va commencer à faire beaucoup là, ouais. Il nous en reste. Ah bah on n'en a plus. On a trop de commandes. D'ailleurs, il faut que je... Bon, bref. Bref. On a déjà fait un clean. Ouais, je sais, j'ai vu. Dans l'émission de Samuel, tu dis à un moment que les puissances politiques cherchent une martingale. Ou quelque chose comme ça, j'ai pas trouvé la signification. Une martingale. Une martingale. Une martingale, c'est un gros lot. C'est ça, la martingale. J'ai touché la martingale. J'ai touché le gros lot. Alors, c'est quoi l'étymologie? Martingale, c'est une bande de tissu placée horizontalement dans le dos d'un vêtement. Ah bon? D'accord. La martingale est une stratégie de mise au jeu de hasard qui tient compte des coups précédents. Souvent et erronément, le but annoncé est de s'assurer un gain ou au moins d'augmenter les chances de gain. Je savais pas du tout. Ah, c'est un algorithme qui gagne à tous les coups. C'est un truc infaillible. Ah! D'accord. C'est un truc de proba, en fait, la martingale. D'accord. Donc la martingale, c'est pas le gros lot. C'est la stratégie qui va te permettre de le toucher à coup sûr. D'accord. D'accord. Donc c'est ça la... Ok, d'accord. On apprend tous les jours. Eh, on apprend en s'amusant, hein. La martingale, c'est donc... Ok, d'accord, c'est la strat... Ok, c'est la strat infaillible. Donc ouais, il a trouvé la martingale. On dit ça de quelqu'un qui a trouvé le truc parfait qui lui permet d'être safe, de gagner du pognon, de, je sais pas, de s'en sortir à tous les coups et tout. Oui, non, mais oui, dans le langage courant, moi, c'est un peu comme ça que je l'utilise, ouais. Là, par exemple, les mecs qui vendent des formations en PDF pour devenir riche sur Internet... Ils ont trouvé la martingale. Voilà. Ont trouvé la martingale. D'accord. Et ça se dit des brokers. Non, ça c'est l'autre variante. On appelle ça une arnaque dans le jargon. Merci la petite chouchoute pour ton resub. Merci Duzaral pour ton prime. Merci beaucoup. Tu viens sur Strasbourg. Je t'offre une knack, un bretzel ou une bière. Alors, la question est en train de se poser de savoir si on profite du fait que je suis à Strasbourg pour organiser un petit apéro avec les abonnés. On va voir. Parce que moi j'arrive le mardi. Il va falloir que je me set up. Parce que le mercredi matin on commence tôt et je vais prendre le train pour rentrer à Paris mercredi après-midi. Donc soit on boit un coup le mardi soir, soit le mercredi en milieu d'après-midi. Merci Gronzilla. Bon, quoi qu'il en soit, ce sera sur le Discord. Tu ordonnes, on exécute. Ah non, exécuter personne. Hein. Prends le train jeudi. Non, je peux pas. J'ai du travail, les enfants. Donc à mon avis, ça va être sur le Discord que ça va s'organiser ce truc-là, dans Apéro IRL là. C'est vachement short pour organiser ça, surtout en une semaine. Bah oui, non, je sais, mais tout se fait à l'arrache. Je te dis, j'ai pas encore d'hébergement. Je suis n'importe ni fait ni à faire, ce mec, hein. Jean, fais attention, à chaque fois que tu sors de Paris, tu fais une beuverie sur place, tu vas bien dans ta vie. Alors le problème, c'est que, ouais, si on boit des coups le mardi soir et que le mercredi matin, je dois prendre un stream à 8h30 pour un bon 5-6 heures de stream sur les affaires européennes, vous allez pas pouvoir m'assassiner avec des shots, hein. Attention, hein. C'est pour ça que je pense que c'est pas une très bonne idée le mardi soir, j'aurai besoin de dormir. Dormir tôt. Donc je pense que le petit apéro, petit café, mercredi après-midi, est plus raisonnable. Voilà, on boira un allongé, petite grenadine. Oui, mais la choucroute. Ah, j'avoue. J'avoue, on se fait une choucroute le mardi soir. Ah non, elle va me rester sur le bide et tout. Merci pour les 5 subs, merci beaucoup du Zaral.
C'était une, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Ah oui, attends, y a Pemf qui m'a envoyé une nouvelle alerte. Bah bon, bref, j'ai du travail. Ça devrait finir à quelle heure? Bah je te dis, ça devrait finir à 14h30, 15h. Le débat sur l'état de l'Union, après faut que je range mon matos, que je mette tout ça dans mon sac, tout ça, tout ça. Ça halasse, c'est la rentrée. Merci beaucoup, Dizaral. Merci. Le mercredi après-midi, je bosse. Bah ouais, non, mais je sais. Mais de toute façon, ça arrange jamais personne. Hein. Il y a toujours des déçus, je sais. Je suis navré. Merci, Océane, pour ton resub. Je viens d'arriver, quelle est l'annonce? Point d'exclamation sauteux dans le chat, comme c'est écrit dans le titre du live. Non mais le spammez pas, c'est... C'est trop con. Merci Zouzou, merci à Voltance pour vos resubs, c'est très gentil, merci à vous. Merci à vous, merci à vous. Demain, stream, à quelle heure? Je sais pas moi, qu'est-ce qui vous arrange comme horaire? Attends, non, parce que demain j'ai du boulot. Non, attends, je dois être à 19h30 là-bas. Faut que je parte de chez moi à 18h. 19h30. À mon avis, demain, on part sur un stream à 15h. 16h? Plutôt l'après-midi. Bon, 15h. Demain stream d'annonce à 15h. Moi je serai vous, demain je regarderai. Moi je serai vous, demain je regarderai parce que c'est peut-être du lourd. Un stream matinal, oui, c'est ça, 15h du matin. 15h du matin. Donc je vous invite à regarder ça. Je vous invite à regarder ça. Attends, je regarde. Tac, 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 tac. Tiens, on va faire un raid. On va faire un raid chez Altisplay, qui est un streamer et youtubeur qui parle de vélo. C'est lui qui m'a prêté ce vélo que j'utilise en ce moment à Paris. Donc, on fait un raid chez lui. Il est actuellement en vélo, Altisplay. Lui, il fait des streams dans la rue, en vélo. Hop. On fait un raid chez Altisplay. Passez une bonne après-midi. On se retrouve demain à 15h pour un stream d'annonce. Soyez là, ça va claquer. Profitez bien du stream d'Altisplay en vélo dans les rues de Paris. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Voilà. Ciao, bye bye. Bisous.